Bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous pour cette manifestation autour du livre de Klaus Thewlite. Le titre en français s'intitule Fantasmagorie. Le titre allemand est Männerfantasien. Une manifestation qui est organisée en coopération avec le Goethe-Institut, dont je salue la directrice Gertrud de Blaye. Et une manifestation qui, une fois n'est pas coutume, met à l'honneur non pas un auteur, mais un traducteur, Christophe Lucchese. Bonsoir.
Bonsoir.
Christophe Lucchese est philosophe de formation, et c'est important parce que nous parlerons d'un ouvrage qui est un ouvrage philosophique aussi, un ouvrage de sciences humaines. Mais Christophe Lucchese a aussi une formation et une expérience déjà importante de traducteur. Il a participé à des programmes prestigieux, comme le programme franco-allemand Goldschmidt des jeunes traducteurs. Il a été lauréat de la bourse Transfert Théâtral pour sa traduction d'une pièce de Michel Descartes. Il a, je trouve, réalisé une prouesse en éditant et en traduisant une grande partie de l'ouvrage de Klaus Thewlite, Männerfantasien. Alors, il faut savoir que Männerfantasien, vous voyez les livres un peu jaunis que j'ai devant moi, est un livre qui est apparu en allemand en 1977 et en 1978, en deux volumes. Donc c'est à l'origine une thèse de doctorat sur la littérature des corps francs, la littérature des soldats revenus de la Première Guerre mondiale et qui ont écrit entre 1918 et 1923. Et ce livre, Männerfantasien, est devenu un best-seller en sciences humaines à la fin des années 70 et dans les années 1980 en République fédérale d'Allemagne. Alors, peut-être une première question pour Christophe Lucchese. Un ouvrage donc paru en allemand en 1977-1978 et qui paraît chez l'Arche éditeur en 2016 en français. Pourquoi ce délai Pourquoi publier en français cet ouvrage en 2016
C'est un peu compliqué à répondre. En fait, on peut assez difficilement trouver des causes à quelque chose qui ne s'est pas produit, notamment en fait la traduction. La première réponse serait simplement le volume du livre, c'est-à-dire qu'il s'agit quand même d'un livre qui fait à peu près 1000 pages sur un sujet qui n'est pas non plus un sujet qui est familier pour les Français et qui en plus, autre particularité du livre, c'est un livre qui est illustré et richement illustré. Et ça, c'est pas non plus négligeable si on va sur le terrain, purement matériel de l'édition. C'est pas négligeable en termes de coût, en plus de celui de la traduction. Ensuite, ça peut pas tout expliquer, sachant que quand c'est sorti, ça a connu un énorme succès en Allemagne et que en plus, après sa sortie, il y a eu pas mal de traductions dans d'autres pays, dont les États-Unis. Il y en a eu en italien, il y en a eu en japonais, il y a eu en néerlandais, en croate. En suédois, et pas en français. Théorie, mais c'est peut-être un peu ambitieux, mon idée là-dessus, c'est je pense qu'on assiste à peu près à cette période, en tout cas en France, à la fin des années 70, à un peu un changement du champ intellectuel, en tout cas en France, et à l'arrivée de ce qu'on appelle les nouveaux philosophes. Et ces nouveaux philosophes, qu'est-ce qu'ils essaient justement d'enterrer? C'est un peu toute cette théorie à la Deleuze, à la Guattari, à la Lyotard, à la Derrida, etc. Et qu'est-ce qu'est Thewlite, sinon un peu le parangon, on va dire, post-structuraliste ou allemand. Et en tout cas, il y a une anecdote là-dessus, c'est K.D. Wolf, qui est l'éditeur de Strumpfell Verlag, donc l'édition d'origine de Männerfantasie, qui m'a dit qu'il avait eu un retour d'un lecteur français qu'il avait lu, qui avait lu ce livre et qui avait dit « On a assez d'un Deleuze en France ». Donc je crois que ça peut expliquer en tout cas l'un dans l'autre et les contraintes, je pense, liées au budget, liées au coût du livre, et de l'autre, le climat intellectuel ou ce champ qui est en train de se reconfigurer autour d'autres personnages, d'autres médias. Bon, enfin bref, ça c'est une autre question, plus vaste et tout. Mais je crois que c'est un climat qui n'était pas spécialement propice à l'édition de ce livre-là. Voilà. Pourquoi 40 ans? Il a peut-être fallu attendre quelqu'un d'assez, je pense, naïf, pas fou, ni, etc. Je pense plutôt naïf, je crois que c'est mon cas. On pourra en reparler par rapport à mes motivations, etc. Mais pour se lancer dans une entreprise pareille. Et puis, en tous les cas, ça n'a pas été une entreprise non plus entièrement, comment dire, qui est un long fleuve tranquille. On pourra y revenir.
Grâce à vous, alors Klaus Teveleit commence à être connu en France. On lui a consacré effectivement des présentations d'ouvrages, notamment à Paris, et une pleine page dans Le Monde de Livres il y a quelques semaines. Alors peut-être pour les lecteurs français qui ne connaissent pas encore Klaus Teveleit, qui est-il, hein? Il est né en 1942, donc il avait 35 ans au moment où il a publié Männer Fantasien en allemand. Et il a aujourd'hui, il est toujours jeune et fringant, puisqu'il a une petite 70 ans à peu près, un peu plus. Alors qui est Klaus Teveleit?
Qui est Klaus Teveleit? C'est un peu ça aussi. Je crois que c'est quelque chose qui est difficile. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, sachant que en Allemagne aussi, il a eu pas mal de soucis par rapport pour savoir qui il était, qu'est-ce qu'il faisait. Je pense par exemple à l'institution universitaire académique qui a eu du mal à l'accepter en son sein, et notamment suite à la publication de sa thèse, donc qui a donné lieu après au livre qu'on connaît. L'université dans laquelle il était, qui était celle de Fribourg, lui a refusé en fait une place comme enseignant en fait en littérature, et au motif que en fait j'ai aussi cette citation, le professeur en question qui aurait refusé cette place là, il s'appelait en plus c'est un hasard assez heureux, Gerhard Kaiser, donc Kaiser, donc l'empereur. Et il a refusé en fait du coup la place à Teveleit au motif que malgré son intelligence échevelée, sa thèse manquait quand même d'une certaine rigueur, une rigueur qui était nécessaire justement à la conduite de travaux de ce nom universitaire, etc. Et quand on lit en fait ce qui est assez drôle, quand on lit l'avis de ce Gerhard Kaiser, on a l'impression de voir le négatif de la thèse de Teveleit. Alors j'ai un petit passage traduit à la va-vite. Et il dit par exemple « Sa thèse, que l'on pourrait qualifier de monstrueuse eu égard à son étendue, manque de la rigueur méthodologique et du contrôle de soi face à une capacité associative foisonnante qui entend associer tout à tout et finit par dériver de ce dont il est question pour aller se perdre dans une histoire de l'Europe sociale, psychologique. » Alors, j'aimerais bien demander à Gerhard Kaiser qu'est-ce que ça veut dire, en tout cas en allemand, la « social, psychologische » Geschichte, enfin bref, Europa, ça je sais pas trop. Mais on voit déjà que, avec déjà l'institution dans laquelle il a étudié puis tenu sa thèse, il avait quelques petits problèmes, et pour ça, il a par exemple pas pu enseigner, en tout cas un certain nombre d'années. Et d'ailleurs, pour ça, encore maintenant, qui se qualifie plus comme un auteur, Freie Autor, plutôt qu'un universitaire. Donc c'est qu'en 98, je crois qu'il a une place à Karlsruhe, et il va enseigner en fait 10 ans jusqu'à sa retraite. Donc voilà. Et puis, si ça ne suffisait pas, il y a aussi tous les thèmes qu'il aborde. C'est-à-dire, à la base, lui, il a fait de la littérature allemande et anglaise, mais il commence à faire des excursions ou des incursions dans la philosophie, dans la psychologie, notamment par le biais de sa femme, qui l'a beaucoup aidé, qui est elle psychologue de formation et de profession. Il va dans les études de genre, il va dans la décolonisation, il brasse très 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 large, au point qu'aujourd'hui encore, et par exemple en France, c'est très dur de savoir où est-ce qu'on le met en librairie, par exemple. Ça, c'est une expérience que j'ai pu faire en allant moi-même un peu sur les tables des libraires, et à chaque fois, il est à un endroit différent. Enfin voilà, donc je dirais, il est un peu inclassable, voilà, pour la faire courte.
Alors effectivement, vous avez on a eu un petit extrait du jugement de ce professeur allemand, qui appartient évidemment à une toute autre génération que Klaus Teveleit. Et voilà, c'est aussi l'histoire de ce livre, l'histoire de ces Männer Fantasien, de ces Fantasmagories, c'est aussi l'histoire d'un conflit de génération, et dans un contexte très précis, les années 70 en République fédérale d'Allemagne, Alors, si vous lisez la préface de Klaus Teveleit pour l'édition française de Fantasmagorie, je crois qu'il résume très bien le contexte. C'est une révolte de cette génération-là, ceux qui sont nés dans les années 40, contre la génération des parents, ceux qui étaient finalement à l'âge adulte pendant la période national-socialiste. Donc l'ouvrage de Klaus Teveleit se comprend, à l'aune de ce contexte, de ce contexte de révolte, de questionnement. Les jeunes dans les années 70 se demandent qu'est-ce que mes parents ont fait entre 1933 et 1945 et comment finalement me soustraire, moi, jeune, à l'éducation qu'ils m'ont donnée, aux repères qu'ils m'ont donnés, et comment finalement me libérer et libérer aussi mon corps de tout ce que le national-socialisme a eu de négatif dans l'histoire et, dans la construction des individus entre 1933 et 1945. Donc, contexte des années 70, Klaus Teveleit propose finalement une théorie du fascisme et une théorie originale du fascisme, ce qui explique son succès. Alors, Christophe Lucchez, comment peut-on finalement résumer à grands traits cette théorie du fascisme de Klaus Teveleit ?
Alors, je vais essayer. C'est un exercice assez périlleux, sachant que toutes les fois où je m'y suis, adonné, ça a donné une version différente et qui est plus ou moins heureuse suivant, les conditions, la météo, etc. Donc voilà. La première chose, je crois, c'est que Teveleit n'essaie pas de faire une théorie du fascisme à partir de l'idéologie fasciste. D'ailleurs, il essaie de se distancier de ce terme de fascisme. Parce que, justement, en termes idéologiques, la question qu'il laisse, lui, plutôt aux politologues, est de savoir qu'est-ce qui est pré-fasciste, qu'est-ce qui est déjà fasciste, qu'est-ce qui ne l'est plus encore, etc. Ça ne l'intéresse pas vraiment. Ce qui l'intéresse, en fait, c'est plutôt un rapport au corps. Et ce rapport au corps, il le situe, en fait, chez un certain type d'homme qu'il appelle l'homme-soldat. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il dit dans la préface d'avoir renoncé justement à ce terme de fasciste ou de fascisme pour préférer celui d'homme-soldat. Et en fait, qu'est-ce qui se passe chez cet homme-soldat ? Cet homme-soldat a un rapport très particulier. Déjà, il le situe dans les années entre 1918 et 1923 en Allemagne lors de la Révolution allemande et du côté des nationalistes, ces corps francs, ces milices qui sont constituées pour réprimer en fait les mouvements, le spartakisme. Dans une alliance en fait un peu étrange puisqu'ils étaient engagés par le gouvernement SPD à l'époque pour réprimer les spartakistes. Bon, enfin bref, ça on pourra revenir. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que ces personnes-là, alors que tous les autres, les soldats faisaient des conseils, les ouvriers aussi, et tout le monde semblait en fait plutôt acquis à la cause. D'ailleurs, au début, elle s'est faite sans répression, elle s'est faite sans tirer un coup de feu, rien. Eh bien, il y en avait, ces corps francs, pour qui c'était juste impossible, impensable. C'était à la limite, ça leur provoquait pas des crises d'urticaire, mais une espèce d'hystérie. Ils avaient besoin, en fait, face à ça, à faire quelque chose, et ce quelque chose, c'était souvent tuer. Donc en fait, Teveleit cherche à savoir quel est le rapport en fait vraiment au corps. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui peut motiver en fait physiquement quelqu'un à tuer, et ce contre tout rapport motif rationnel. Je crois que ça c'est un point de départ aussi dans sa théorie du fascisme. Et donc c'est ça qui l'amène à cette psychologie, à chercher de près la psychologie de l'homme soldat et ses rapports notamment avec l'autre sexe. Parce que ce rapport est assez symptomatique, je crois, du rapport à son propre corps et à celui d'autrui.
Alors, effectivement, la démarche de Teveleit, c'est une démarche de psychosociologie. Il intègre un certain nombre de théories psychanalytiques, psychiatriques, très en vogue dans les années 60-70. Des choses qui ont été faites aux États-Unis, mais aussi des choses qui ont été faites en France, notamment par... vous l'avez dit tout à l'heure, Deleuze, Guattari, Foucault aussi, qui s'est intéressé au livre de Klaus Teveleit. Alors, une des idées l'homme-soldat, de ce mal guerrier que définit Klaus Teveleit, c'est qu'il se construit un corps comme une cuirasse. Alors, une cuirasse contre tout ce qui est dissolution, fluide, fragmentation, tout ce qui est finalement hein, comme ce que Tevelak définit hein, comme le féminin. Mmh. Alors, Christophe Lucas, peut-être le corps comme cuirasse et finalement la femme hein, comme fluide, hein, comme dissolution. Peut-être quelques approfondissements, quelques développements de Tevelak là-dessus.
Oui, en fait, la question, en fait, c'est vrai que ce qu'il trouve symptomatique, c'est cette peur panique face au flot, mais aussi face aux femmes. Et cette façon, en fait, que Tevelak constate chez ces hommes, qu'ont ces hommes, en fait, de classer les femmes en des catégories bien distinctes et bien claires. D'un côté, il va y avoir l'infirmière rouge et la flingueuse, la Flinten Vibe, qui pourrait être un peu l'équivalent de notre pétroleuse, nous. Et de l'autre, l'infirmière rouge, et c'est la comtesse. Et en fait, qu'est-ce qu'il constate là-dedans ? C'est que la rouge est sursexualisée, au point qu'elle présente une sexualité agressive, castratrice, et qu'elle représente en fait un danger auquel l'homme soldat se doit de réagir, forcément par la violence, c'est une forme d'auto-justification. Et de l'autre, l'infirmière blanche ou la comtesse, au contraire, est dévitalisée. Désexualisée, elle ne représente plus aucun risque, presque, ou tentation, quoi que ce soit. Dans les deux cas, on voit qu'il y a un rapport très ambigu à la sexualité. Et ce rapport de la sexualité, Tevelak va chercher à l'approfondir en se demandant, en fait, en passant en revue un peu les arguments freudiens ou de type psychanalytique traditionnel, et en s'apercevant que ça tombe un peu à plat. Et là, il se demande, et si en fait l'homme soldat, il ne réprimait pas tant, par exemple, son angoisse de castration ou son angoisse liée à l'inceste, etc., voilà, mais plutôt le désir même. Et qu'est-ce qui a amené ces hommes en fait, à réprimer leur propre désir jusqu'à se constituer une carapace, à s'insensibiliser, et du coup, en faisant ça, en réprimant tout ce qu'ils identifiaient à la femme, donc le fluide, mais la sexualité, etc. D'ailleurs, ça amènera Tevelak dans la seconde partie, qui est vraiment pour la peine une question de culture critique, quoi, plus versée sur l'histoire culturelle, qui va l'amener à se demander qu'est-ce qui a fait au cours des siècles en fait un certain sujet, c'est-à-dire le mâle, le moi mâle européen, à voir dans la femme la source même du désir et du flux et d'en faire des flots. C'est ça qui va l'amener aussi à faire cette jonction entre cette peur des flots. Ces hommes soldats et le communisme. Parce que forcément, les flots rouges qui s'abattent, qui déferlent aux frontières contre son propre corps, ces masses indistinctes qui vont s'abattre sur les hommes soldats, c'est ça qui les fait peur. C'est ça qui va amener Tevelak à creuser toutes ces questions.
Alors peut-être pour illustrer ce que vous venez de dire, un extrait du livre, justement, hein, d'un passage sur les flots, hein, les flots et les soldats.
Cette puissante figure des flots met ces personnes dans un état d'excitation dont l'ambivalence est clairement perceptible. C'est à la fois menaçant et attirant. Les flots attirent. De puissants affects sont en jeu qui ne sauraient mentir. D'où parlent ces hommes vraiment ? Et pourquoi justement les flots, la déferlante, l'eau mugissante, et pas par exemple les bolcheviks s'avancer comme la quatrième période glaciaire, ou comme un ouragan, une tempête de sable asiatique ? Ça ne serait pas très convaincant, mais après tout, pourquoi pas ? Et pourquoi les bolcheviks déferlent-ils si terriblement, et pas l'armée impériale allemande qui a envahi la Belgique, ou bien les corps francs dans les pays baltes ? Eux, secs et solides, envahissent un territoire, une armée d'endigueurs qui chantonne un air. Il ne s'agit pas tant de la métaphore des flots que de son usage spécifique. La langue charrie beaucoup de choses. À la claire fontaine, après nous le déluge, les eaux calmes, torrents de papier, courants politiques, littéraires, intellectuels, tout est flux, influence. Surfer sur une vague ou l'autre, avec ou à contre-courant, dans le mainstream ou ses affluents. Cela coule et douce, lit. Nos soldats veulent tout sauf nager, peu importe le cours d'eau. Ils veulent se tenir sur la terre ferme, sur leurs deux pieds, bien enracinés, ancrés dans le sol. Laisser ricocher sur eux les flots, les arrêter, les endiguer. Nous étions ainsi parvenus à disperser une vague rouge d'indignation, le général Ludwitz, qui entre dans Munich, avec les corps francs en mai 1919. Où il s'ensuivit un autre jour de combat acharné jusqu'à ce que les flots rouges soient finalement repoussés, Salomon. Rien ne doit couler, et les flots rouges encore moins qu'autre chose. Si quelque chose doit bouger, alors le mouvement, c'est-à-dire soi-même, mais comme un seul homme, en formation, sur ordre, en ligne, en colonne, en bloc, en triangle, en une solide unité, mort à tout ce qui coule. Mais d'où vient l'afflux ? Et d'où provient la secrète attirance qu'exercent donc les flots sur ces soldats ? Ernst Jünger a une fois écrit « Pour le lansquenet, la vie était le nuage orageux qui couvre au loin la nuit. Le nuage orageux peut nous survoler ou crever tout à coup dans un bruit de tonnerre, ceci étant plus probable que cela. Les trombes ne seraient pas imprévues. Elles sont présentes, contenues, prêtes à éclater à un moment donné, là où quelque chose les heurte avec fracas. Salomon dit avoir déjà ressenti comme cadet, sous la monarchie, la manière dont, à l'intérieur de l'ancien ordre, le nouveau flot montait déjà devant les digues et menaçait de submerger les formes pétrifiées de la vie. Le flot attendu, pour menaçant qu'il soit, n'en est pas moins positivement investi. Salomon ne cherche pas à défendre les formes pétrifiées de la vie, coûte que coûte. La représentation des poussées extérieures et de la rupture des digues intérieures, sous l'image des flots, paraît en mesure de saisir la défaite allemande et le bouleversement révolutionnaire de la situation à l'intérieur du pays comme au dehors. Ainsi s'écoulent librement et se déposent sur terre les instincts ayant abandonné le lit que leur avait prescrit la société wilhelminienne. Le nuage orageux de Jünger et les pluies diluviennes de Salomon contiennent tout aussi clairement ce rapport au processus de son propre intérieur. Novembre 1918. Retrait des troupes par la Belgique. Même les soldats allemands désordonnés, qui ne se laissent plus dicter d'ordre par les militaires, apparaissent comme des flots, charriant une nouvelle et effrayante chose qui était demeurée jusque-là cachée. Le capitaine von Heidebreck, plus tard commandant de corps franc. Début de citation. Débuta alors un dur temps d'épreuves. Le jour suivant, les flots vinrent se déverser par les rues de Lüttich presque toute une semaine. Jour et nuit, colonne après colonne, sans arrêt, des milliers de milliers filaient, se démenaient dans les rues de la ville, traînassaient ici et là. Les véhicules tant chargés que souvent les chevaux ployaient. Tous les camions bourrés à craquer se battaient pour les places. Même image à la gare, chacun ne pensait qu'à soi, l'autre pouvait crever. Une psychose de la peur défie tous les liens. La peur d'arriver trop tard là où maintenant en Allemagne, d'autres se refaisaient une santé. Seule la cuisine roulante gardait un semblant de formation. Ainsi se poursuivait la déferlante jour après jour, hurlant, criant, jurant, à plusieurs colonnes côte à côte, se dépassant, se barrant la route. Mais d'où sortaient-ils tous leurs foulards rouges ? C'est un temps d'épreuve pour Heidebreck. Succombera-t-il à la tentation de rentrer fils à chez lui pour se refaire une santé ? En montant des combines, par exemple ? Car ce sont là ses pensées qu'il exprime et non celles des soldats se dépêchant de rentrer chez eux. Où tiendra-t-il bon face à l'attrait des flots ? Bien sûr qu'il va tenir bon, c'est déjà tout vu. Et c'est même pour ça qu'il n'a pas besoin de réprimer un certain enthousiasme pour le chaos dans lequel il baigne. Les flots sont si abstraits que leur image peut contenir nombre de processus. La seule chose qu'ils doivent avoir de commun est une sorte de transgression des frontières. Frontières nationales, frontières corporelles, frontières de la bienséance, de l'habitude. Ces transgressions doivent toucher l'interdit. Puis quelque chose commence à couler, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui excite et angoisse tout à la fois. Plus les flots se rapprochent, plus ils semblent dangereux.
Merci beaucoup. Alors, vous avez, je crois, ici hein, une idée de la manière hein, dont écrit Klaus Teveleit et aussi hein, certainement des indices hein, pour lesquels hein, Gerhard Kaiser a eu quelques boutons. Hein, ce professeur allemand a eu quelques boutons lorsqu'il a lu le travail hein, de Teveleit. Alors, ça nous permet peut-être, hein, ce premier extrait nous permet aussi peut-être hein, de parler un peu des particularités formelles de l'ouvrage hein, de Klaus Teveleit. Klaus Teveleit dit encore aujourd'hui hein, qu'il voudrait qu'on lise ses livres comme on regarde des films. D'accord, que donc vous aviez ici aussi dans cet extrait hein, finalement un défilé hein, de plans, hein, d'images hein, qui se succédaient. Et quand on lit hein, Fantasmagorie, on a vraiment hein, l'impression d'un patchwork, parce que vous avez évidemment hein, des développements théoriques. Hein, on a parlé tout à l'heure hein, de psychanalyse, hein, de Foucault, etc. Donc tout ça, c'est présent dans le texte. Mais on a aussi hein, des récits autobiographiques, des extraits hein, littéraires, une manière aussi des récits hein, historiques de la part de Teveleit. On a hein, des interviews hein, de Jimi Hendrix. On a des analyses hein, de films de Walt Disney. Alors, on a véritablement cette impression hein, de patchwork, hein, d'un tapis hein, de références hein, assez discontinues. Alors, pourquoi, selon vous, Christophe Lucas, pourquoi est-ce que Klaus Teveleit utilise cette technique d'écriture ?
Ça, c'est une question assez difficile. Dans un entretien que j'avais eu avec lui, justement, il me disait que c'est dans le montage, dans la confrontation des images les unes avec les autres, que justement on pouvait donner ou laisser entrepercevoir la vérité, en tout cas comme il l'entendait. Et ça, il le disait justement parce que quoi, je lui faisais remarquer que pour quelqu'un qui mêle autant d'images, de textes, de citations, de tous les genres possibles, etc., il était quand même quelqu'un d'assez iconoclaste. Iconoclaste dans le sens où, par exemple, je me souviens d'une note où il met en garde les féministes allemandes de l'époque de ne pas d'arrêter de porter au nu, par exemple, Rosa Luxembourg, d'arrêter justement de voir, etc., quoi, d'avoir des images qui soient trop fortes et qu'il fallait justement essayer de casser un peu ces idoles-là et passer au-delà des images. Mais ça n'empêche pas lui-même des employés. Donc je pense que c'est un procédé formel qui lui permet de... qui est déjà en cohérence avec ce qu'il dit, c'est-à-dire laisser couler, laisser être le plus fluide possible, etc., charrier les éléments aussi les plus variés possibles, des registres les plus éloignés, que ce soit du comics ou au Faust de Goethe, ou voilà. Quant à savoir exactement pourquoi, ça, il faut le lire. Je pense que c'est un procédé, en fait, qui s'éprouve. C'est quelque chose, c'est à la fois programmatique, c'est une écriture programmatique, et qui se donne, en fait, comme mission d'accomplir ce qu'elle dit. C'est-à-dire se débarrasser de toutes les formes rigides. Et ça, en tout cas, c'est un processus qui tend à ça, se débarrasser de la forme rigide de l'écriture, peut-être de l'auteur, parce que c'est sa façon aussi de tuer l'auteur, Thévelight, etc., en empruntant à autant de registres, à autant de personnes et tout. Voilà, je crois que c'est un élément de réponse. Je ne pense pas avoir le fin mot là-dessus.
Ouais, alors, l'idée effectivement, sortir du fascisme, parce que c'est un peu ce qu'il veut faire dans son livre, hein, c'est évidemment sortir de ses corps, hein, disciplinés, hein, militaires, etc. Mais c'est aussi, peut-être certainement, aussi sortir un peu de l'écriture, hein, universitaire, hein, les choses, hein, dites de manière, hein, très rigoureuse, très... classé, etc. Et certainement que Thévelight aussi, hein, a eu du mal, vous l'avez dit, hein, à trouver sa place, hein, dans le paysage intellectuel allemand et même européen, parce que il avait employé, je dirais, hein, une forme, hein, très iconoclaste, hein, d'écriture.
Exactement. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est aussi pour se défaire un peu de toutes ces vieilles formes d'expression qu'il tente quelque chose et qu'il pousse aussi, d'un point de vue formel, jusqu'à ce dernier retranchement. Et c'est ça qui fait, voilà, comme vous disiez, que c'est aussi une figure un peu difficile à classer, que ce soit à l'université comme en librairie.
Ouais. Voilà, donc œuvre difficile à classer, un livre vraiment très déroutant, et donc aussi un livre difficile, je dirais, hein, à traduire. Hein. Je suis, en vous lisant, hein, je suis vraiment, en lisant votre traduction, hein, je suis vraiment très admiratif, je dirais, de la prouesse, hein, de la performance, hein, de traduction que ça représente. Alors peut-être qu'on peut commencer, je dirais, par le titre lui-même. Hein. Je crois que beaucoup, hein, peut-être beaucoup d'entre vous, hein, comprennent au moins un peu d'allemand. Hein, Männer Fantasien, hein, c'est... les fantasmes des hommes, d'accord. Et Christophe Lucchese a choisi, hein, évidemment en accord avec l'éditeur, hein, a choisi le titre Fantasmagorie. Alors, pourquoi ce titre et comment est-ce que vous êtes tombé finalement sur cette bonne idée ?
D'abord, c'est une petite précision, c'est pas moi qui ai trouvé le titre, c'est une amie traductrice, et on était en groupe de traducteurs. Les traducteurs sont souvent comme ça, ils sont peut-être dans l'ombre, mais ils se réunissent en groupe, et on avait fait un petit brainstorming, parce que justement, ce titre posait problème, était assez problématique. Déjà, rien que « fantasy ». Rien que ça, en français, on va tomber sur fantasme. Mais fantasme, c'est une réduction du champ, de tout le champ, en fait, de la fantaisie allemande, qui est aussi qui englobe aussi l'imagination, l'imaginaire, et c'est un appauvrissement. Ensuite, il y avait le côté un peu entre Männer Fantasien. Alors, si on était de fantasme masculin, fantasme de l'homme, on perdait un peu aussi un peu cette ironie, moi, en tout cas je la vois comme ça, du titre allemand pour quelque chose qui était relativement finalement assez clinique, presque clinique, froid, et je trouve que ça reflétait pas du tout en fait l'esprit finalement du livre. Donc voilà, il fallait qu'on arrive en fait un peu à cette même densité qu'a Männer Fantasien d'un seul tenant en français. Et donc on a cherché autour de fantasmes, voilà, parce que déjà on n'arrivait pas à se décider entre fantasme ou fantaisie. On a beau se reporter au dictionnaire de psychanalyse de Laplanche et Pontalis, qui eux-mêmes avaient un peu glosé là-dessus. Bon, voilà, ça satisfaisait pas. Et puis on est tombé sur fantasmagorie, qui semblait bien condensé à la fois. Mais c'est rigolo, parce que la fantasmagorie, c'est aussi un procédé visuel de projection d'image. Donc arriver à mêler à la fois le mal du ménin et ce procédé d'illusion, ça me semblait assez juste pour retranscrire un peu voilà, l'esprit du livre.
Et alors, il y a, hein, je dirais aussi parallèlement au travail hein, de traduction, aussi un vrai travail hein, d'édition chez vous. Hein. Madame De Blaye, la directrice du Goethe-Institut, m'a dit ce matin, et dire que dans les années 80, j'ai lu les 1200 pages en allemand, alors qu'il aurait suffi d'attendre 2016 et la traduction lucaise pour finalement trouver hein, le condensé de l'œuvre de Klaus Teveleit sur 550, hein, 600 pages. Alors, qu'est-ce que, hein, et c'est aussi une question, je dirais, au traducteur hein, et à l'éditeur, qu'est-ce que vous avez choisi de supprimer, de sacrifier dans la version française pour ne pas, évidemment, trahir, je dirais, l'œuvre et pour rendre ça hein, plus digeste, je dirais, hein, peut-être plus lisible pour un public francophone?
Alors, moi, déjà, je trouve que c'est très lisible. Même, on se laisse emporter, je crois. Il n'y a pas de souci, on se laisse charrier, aller au gré un peu de ces associations, etc. Après, il ne faut pas se laisser tromper par l'illusion en fait, de ces 576 pages, pour être exact. Il se trouve qu'on arrive à caser beaucoup, beaucoup de caractères en si peu de pages. Donc voilà, ça, c'est une chose. L'autre... Ça a été très difficile en fait d'arriver à une édition, en tout cas une édition réduite. Faut dire qu'elle n'est pas si réduite que ça, c'est-à-dire que je crois que l'édition d'origine doit être dans les quelque chose comme 200 ou 2 millions de signes. La française, elle est à 1 700 000, je veux dire, c'est une petite. Allez, 100 pages, hein, 100 pages de 200 pages. Mon problème, c'est que j'ai vraiment sous-estimé les notes, l'appareil critique, mais on pourra y revenir. C'était écrit encore plus petit que le reste. Et il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que Teveleit, voilà, déborde de partout, dans les marges, dans les notes, il fait des notes de notes. Enfin bref, il pousse là, le côté formel à son extrême, quoi. Et oui, alors, ce qui est un peu paradoxal quand on veut couper un texte comme ça, c'est quelque part, on coupe aussi le principe même du livre. C'est-à-dire que s'il est aussi long, c'est que Teveleit a voulu, et d'ailleurs, tous ses autres livres le prouvent, qui font d'ailleurs rarement moins de 1000 pages, c'est qu'il veut que ce livre soit aussi une expérience. Il faut qu'on lise, que la lecture dure, elle dure, qu'on se laisse aller aussi à ces images, qu'on se laisse surprendre. Et ça, finalement, ça prend beaucoup d'espace. Parce que, en fait, c'est pas tant. Il écrit beaucoup, mais il cite aussi énormément. C'est-à-dire, il faudrait qu'on trouve un ratio, mais entre toutes les citations qu'il y a, je pense qu'une bonne partie, c'est pas, quoi, on les doit pas à Teveleit lui-même. On les doit à Salomon, Junger, on les doit à. Bon, enfin, bref, Goebbels, etc. Donc, l'idée, c'était de ne pas dénaturer ça, c'est-à-dire de ne pas tarir. Quelque part, ou assécher le propos, tout en gardant un certain équilibre. L'autre chose, c'est que Teveleit, en fait, il a une écriture qui ne procède pas ou un raisonnement. Déjà, il ne raisonne pas vraiment, c'est plutôt associatif que vraiment, méthodique ou hypothético-déductif. Donc, c'est plutôt une économie globale qu'on essaie de sauvegarder que la trajectoire ou l'évolution d'un raisonnement. Donc à ce niveau-là, il a fallu voir quand on fait une coupe à tel endroit, est-ce que ça déséquilibre tel autre, etc. Il fallait trouver, c'est plus une question d'équilibre vraiment que de raisonnement, parce qu'il fallait, garder cette teneur, cette tonalité, propre livre, ce côté abondant, etc., tout en essayant de maintenir le tissu théorique. Enfin voilà, je crois que c'est ça. Je me rappelle plus exactement toutes les tailles que j'ai pu faire, mais au final, je crois que ça marche à peu près. Voilà. Encore une fois, c'est très expérimental.
Oui, mais je crois qu'on peut. Moi qui l'ai lu, hein, je peux dire effectivement hein, que ça se tient tout à fait et que vous ne trahissez pas ni la pensée hein, ni le mode d'écriture de Klaus Teveleit. Alors vous avez, je l'ai dit en introduction, vous avez déjà une certaine expérience de la traduction. Vous avez traduit des textes de sciences humaines, des textes en allemand sur Foucault par exemple. Vous avez aussi traduit de la littérature, des pièces de théâtre. Mais ici, j'ai l'impression que le défi est encore différent. Donc peut-être que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience de traducteur. Quelles ont été les difficultés, et puis quelles ont été aussi peut-être les plaisirs que vous avez rencontrés lorsque vous avez traduit le texte de Tevelight.
Le premier plaisir, c'est de laisser embarquer par ce style, par cette pensée qui est jamais là où on l'attend, ou en fait qui nous amène quelque part. Et on ne sait jamais où on atterrit, quoi. Une des plus grosses difficultés, elle est vraiment liée, mais je crois que la discussion tourne autour de ça, c'est sur le côté iconoclaste, sur le côté un peu hybride de l'écriture, c'est-à-dire qu'il fallait changer de registre tout le temps. Il n'y avait pas un moment où on était tranquillement, comme ça, là, sur sa barque, en rime de croisière, hop, on était parti pour traduire les 900 pages qui restaient. Non, c'est d'un coup, hop, on passe à Junger, qui est quand même sacrément difficile à traduire, parce que, petite parenthèse, il reprend l'édition originale, je crois que c'est celle de 21, si je ne m'abuse. La française, moi, je pensais pouvoir me reposer sur celle très bien traduite, etc. Traduite chez Christian Bourgois, qui date des années 90. Or, quelle ne fut pas ma désillusion quand je me suis retrouvé avec des passages qui manquaient, des phrases qui n'étaient pas tout à fait les mêmes que dans l'original, etc. Donc, j'ai été obligé de retraduire une bonne partie à l'aide de ces traductions. Ça a été aussi le cas pour, par exemple, Ernst von Salomon, notamment Les Réprouvés et Les Cadets, avec, à certains endroits, des changements assez intéressants dans la traduction française. Donc c'était ce changement constant de registre en passant de la littérature, le ton à la fois léger, caustique de Tevelight, et puis reprendre pied dans la théorie pure et dure, etc. Ce qui a été, je dirais pas que Tevelight en lui-même n'est pas si difficile que ça à traduire. C'est un plaisir dans le sens où, pour la peine, on peut s'y adonner, on peut se faire plaisir, je pense, plus que des penseurs un peu plus secs, un peu plus le gros problème, c'est qu'il faut faire des recherches tout le temps, partout, chercher les citations, chercher les éditions, etc. J'ai passé un temps fou, en fait, à la bibliothèque, à la BNF, pour retrouver, ou à la bibliothèque Sigmund Freud à Paris, pour retrouver les passages, confronter les éditions. Ça a été le plus douloureux dans mon travail, les notes, des centaines de pages de notes.
Et du coup, est-ce qu'on peut poser une question indiscrète? Quand est-ce que vous avez découvert ce livre de Klaus Tevelight, et à quel moment vous vous êtes dit ça pourrait être vraiment quelque chose, un texte important à présenter à un public francophone? Et finalement, ça, ce serait le début de l'entreprise. Et combien d'années il y a eu jusqu'à ce que finalement vous ayez entre les mains le fruit de votre travail?
Disons que c'était un heureux hasard, puisque j'ai fait un stage chez Strumpfeld Verlag, donc qui est l'édition originale, qui est l'édition, la maison d'édition de Tevelight, il y a de ça maintenant 5 ans. Et une des premières tâches que m'a confiée K.D. Wolf, qui est l'éditeur, le directeur de cette maison d'édition, ça a été de trouver un éditeur en France. Et il m'a dit, si tu trouves un éditeur, tu as du travail pour 40 années. Mais bon, je doute de ça, puisque je ne sais pas si des éditeurs se lanceront dans l'aventure de traduire, par exemple, Burda Koenig, qui doit représenter les 4000 pages, quelque chose comme ça. Et pareil, voilà. Et là-dessus, je me suis mis à lire Tevelight. Et c'est vrai que de par ma formation philosophique, moi j'étais très sensible en fait à tout ce qui venait de Deleuze ou Foucault, et ça m'a de suite plu, alors que j'étais pas très intéressé par la psychanalyse, ou en tout cas je m'en étais détourné justement par ces mêmes Deleuze et Foucault et l'antipsychiatrie, etc. Et du coup ça m'a ramené, et à mesure que je lisais, que je traduisais, etc., ça m'a conforté un peu dans l'idée que c'était vraiment intéressant. Puis après aussi, il y a le temps dans lequel on vit, qui pour moi, du coup, colle un peu à ça, ou en tout cas fait que des thèses de Tevelight reviennent vraiment à la surface. Et tout ça a fait que ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait trouver un éditeur. Donc ça, c'était en 2011. J'ai fait des essais de traduction, j'ai fait le programme Goldschmidt avec justement ce livre comme projet. Et j'ai trouvé un éditeur, en fait, 2 ans plus tard, en 2013 chez L'Arche, donc éditeur. Pour la petite histoire, Rudolf Rahr, qui est l'éditeur de L'Arche, est aussi allemand. Fait intéressant, L'Arche compte dans son catalogue Wilhelm Reich, qui est quand même une référence un peu incontournable, en tout cas pour Tevelight et pour cette époque-là. Donc il y a eu, on va dire, des atomes crochus, et voilà, on s'est lancé dans ce travail-là. Ça a duré encore longtemps, parce qu'il a fallu se mettre d'accord sur l'édition, puis après aussi faire tous les dossiers de subventions, etc. Parce que c'est dur pour une maison d'édition indépendante que de soutenir un projet pharaonique comme ça, quoi. Puis voilà, quand même, ça m'a pris encore, après ça, entre l'édition et la traduction, encore 2 ans, quoi, jusqu'à la sortie du livre. Et après, c'est la vie du livre. On peut jamais dire à 100% que ce livre est essentiel, etc. Mais moi, j'ai l'impression que l'histoire, en tout cas notre histoire, notre présent, me laisse penser que c'est quand même important qu'on relise ça. Et quelque chose qui, en France, en plus ça, manque de ce genre de théorie sur le corps masculin, sur le corps, voilà, et sur le rapport des genres.
Oui, alors effectivement, là, on peut aussi évoquer, je dirais aussi, l'actualité à la fois de Klaus Tevelight et notre actualité à nous. Hein. Vous avez dit, c'est un texte qui vous semble actuel. Klaus Tevelight a publié l'année dernière, donc en 2015, hein, en allemand, un livre qui s'appelle « Das Lachen der Täter », hein, « Le rire des coupables ». Et donc, c'est un texte... où finalement on trouve une certaine continuité avec les thèses, les idées développées par Klaus Tevelight dans Fantasmagorie. Alors peut-être brièvement, parce que vous vous intéressez aussi à ce texte, peut-être brièvement, quelles sont les idées que Klaus Tevelight défend dans Das Lachen der Täter, dans Le rire des coupables ?
Elles sont... Je veux dire, sensiblement les mêmes que dans Men in Fantasy. C'est quelque part aussi, c'est une piqûre de rappel sur, on va dire, un échantillon qui, pour être moins dense que, par exemple, les corps francs, parce que là, pour la peine, il avait tout un corpus, quelque chose d'énorme, gagne en étendue. C'est-à-dire, on va de Breivik, en passant par l'État islamique, on revient sur la Reichswehr de la Seconde Guerre mondiale, on passe par les enfants soldats en Afrique, on va vraiment très loin. Et là-dedans, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse dans ses extrémités, en fait, le rapport du montage, du collage, etc. Ce qui fait qu'on arrive dans une structure qui est même plus linéaire, il n'y a même plus de chapitres, etc. Ce sont des thèmes. Tout joue autour de thèmes et variations, donc il va y avoir des théories, etc. Il va expliquer des choses dans des chapitres qu'il appelle théories et qu'il numérote comme des séries et qu'il agence en fait au milieu d'autres séries qui sont par exemple le rire, etc. Et donc il va essayer d'expliquer, de voir quel est le rapport au rire, à la jouissance en fait, à la toute puissance. Et celle du tueur. Et c'est ça qui va le ramener vers Men in Fantasy, c'est-à-dire ce rapport au corps. Qu'est-ce qui se passe en fin de compte quand on tue ? Quelque part, c'est une forme de délivrance. C'est un état qu'on recherche, ou qu'en tout cas le bourreau ou le coupable, le tueur recherche justement dans son propre corps, et dans lequel il y a une forme de compulsion à tuer. Et le rire là-dedans a une fonction qui est celle qui est une fonction salvatrice, de salut. D'ailleurs, c'est qui reprend dans Men in Fantasy, c'est le Heil. C'est le Heil Hitler, il est assez symptomatique là-dessus, c'est-à-dire ce discours qui est à la fois le salut, mais qui est aussi la santé. C'est le fait de rechercher en fait un état stable, une santé, etc. Et ça il trouve que c'est caractéristique du fascisme, en tout cas de l'homme soldat.
Oui, donc effectivement, l'époque de l'homme soldat et du mal guerrier n'est pas terminée, ne s'est pas terminée en Allemagne dans les années 1918-1923, elle ne s'est pas terminée, selon Klaus Tevelight, entre 1933 et 1945. Hein. C'est, je dirais, quelque chose de structurel, presque d'universel, dit Tevelight, et ça se retrouve chez ce Norvégien Breivik, mais ça se retrouve aussi, toujours selon Tevelight, chez les terroristes de l'organisation État islamique. Alors, vous avez déjà commencé à traduire, je dirais, un certain nombre d'extraits de ce nouveau livre de Klaus Tevelight. Peut-être que vous pouvez nous en lire un extrait.
D'accord. Dans le premier bilan que j'ai dressé de lui, j'ai qualifié Breivik de SS en roue libre. Bien sûr que c'était des psychopathes, entends-je déjà dire. Aucun doute que Himmler, Heydrich, Hitler et consorts furent des psychopathes. Mais qu'entend-on par là au juste ? Qu'ils n'ont pas, de leur vivant, trouvé le bon médecin traitant ? Et que c'est pour cette raison qu'ils sont devenus des meurtriers de masse ? Non. Quelques réflexions de base sur la structure des organisations dont font partie ces meurtriers mènent à de tout autres conclusions. Qu'était-ce donc que la SS nazie ? Et quelles sont les actuelles organisations du même genre ? De ces organisations dont les agissements supralégaux ont indigné le monde entier en faisant valoir le droit d'une race supérieure ou d'une pureté morale supérieure ou le droit supérieur du corps masculin sur le corps féminin ou d'une religion supérieure. En quoi la SS, dont le droit de mort, voire d'exterminer d'autres, entendu inférieure, forme de vie, découlait d'un ou de plusieurs complexes suscités ? En quoi donc la SS se distingue-t-elle des Knight Templars de Breivik qui revendique le droit supérieur de tuer des multiculturaux inférieurs. La seule différence est que les KT, entendu Knight Templars, c'est l'organisation dont se revendique Breivik, n'ont pas encore le pouvoir d'État au nom duquel les SS ont pu opérer dans l'Allemagne nazie. Avant que d'être un organe officiel du pouvoir d'État, les SS de Himmler ne sont pas autre chose que les chevaliers de l'ordre des Templiers. Dans le système de Breivik, cet ordre est l'organisation supérieure, entendu le supercorps, le surcorps totalité, qui l'incorpore et lui confère son autorité, et ce, même s'il agit comme loup solitaire. Sans ce surcorps totalité, il serait un moins que rien, c'est-à-dire un citoyen lambda devant rendre des comptes à la justice civile de son pays. Et c'est justement cela que l'édifice des Knight Templars, c'est SS à lui, met hors circuit. Interrogé sur ce qu'il faisait sourire, Breivik répond qu'il se rit des psychiatres qui l'ont jugé irresponsable de ses actes. Le tueur veut, en premier lieu, marquer les esprits et, excusez du peu, que ses actes chamboulent tout et tout de suite ce qui l'entoure, comprendre la face du monde. Ainsi fait-il grand étalage de son acte, ses actes, partout où il le peut. Quand ensuite les diagnostics de schizophrénie et autres pleuvent dans les colonnes des journaux éclairés ou sortent de la bouche d'experts assermentés, insensibles à la monstruosité, à l'illégitimité de ses actes, il ne peut que rire. Je m'attendais à ce qu'on me juge irresponsable de mes actes, mais je ne suis pas malade, je suis génial. Le temps viendra où vous érigerez une statue en mon nom. Anders Behring smiles. Pour Georg Zeslen, quelque peu surinfecté par Matrix, Breivik est une espèce particulière de clone. Mais c'est ce qu'a toujours été le SS universel. Sortir du ventre d'une mère n'est pas la bonne voie, nous rabâche l'histoire occidentale de Platon à Goebbels. S'il faut amender la phrase, c'est pour étendre la période au-delà de Goebbels et en deçà de Platon. L'homme soldat, pleinement épanoui, s'est toujours donné naissance par la violence, par toutes sortes d'ajustements corporels, dressage, en tant que partie de l'organisation totalité supérieure, conditionné qu'il a été à prendre d'autres vies. Et contrairement à ce qu'on peut dire ici ou là, ce n'est pas parce qu'il entre en scène comme combattant solitaire qu'il est individualiste. Il aimerait bien plutôt une armée de Knight Templars pour partir à l'assaut de la Norvège, et demain, du monde entier. Mais bon, il n'en a pas. C'est donc à lui et à lui seul qu'il revient de sauver le monde, en single hero. Mais il est tout sauf seul. Son armée de chevaliers, ou à défaut une armée imaginaire, l'accompagne en permanence, accompagne chacun de ses meurtriers. Jusque-là, ils se ressemblent tous. Jusque-là, il nous est possible d'appréhender leurs actes sans qu'il soit besoin d'étudier au cas par cas leur psychologie personnelle. Leur action vise l'instauration d'un ordre mondial qu'ils estiment nécessaire pour eux-mêmes, pour la production de leur propre équilibre corporel et pour la culture qui est la leur, race, religion, etc., afin d'atteindre un état qui ne perturbe pas, mais assure bien plutôt leur propre équilibre, l'homéostasie. Et si ce processus a lieu dans le corps seul, il n'en dépasse pas moins le niveau individuel. Il est l'expression physico-politique de l'action visant à l'édification d'organisations et de sociétés guerrières sous domination masculine auxquelles les meurtriers veulent prendre une part active qui leur échoit aussitôt leur acte violent accompli. Leur objectif principal est alors atteint. Après le rire excessif, le rire éruptif ou transperçant de la tuerie du Toya, il se met en mode sourire relâché devant le tribunal. Il a abattu sa part du travail. Il fait relâche.
Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on voit hein, tout à fait l'actualité hein, du livre Fantasmagorie, parce que finalement, notamment le dernier paragraphe que vous avez lu hein, aurait pu être finalement tiré hein, de l'ouvrage hein, écrit en 1977. Il y a là, je dirais, une permanence hein, chez Klaus Teveleit qui est impressionnante. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de naïveté de votre part dans le choix hein, de Klaus Teveleit comme, je dirais, objet hein, de traduction, objet à transmettre hein, pour un lecteurs français. Hein. Je crois que vous apportez, là, avec la traduction hein, de cet extrait du livre de 2015, hein, la preuve que la pensée de Klaus Teveleit peut nous dire quelque chose, hein, bien sûr, aux lecteurs allemands, hein, mais aussi aux lecteurs français. Alors, peut-être encore une question. Vous avez échangé avec Klaus Teveleit. Vous avez dit hein, qu'il avait été traduit hein, beaucoup plus tôt hein, dans d'autres langues, hein, notamment en anglais. Comment est-ce qu'il, comment est-ce qu'il réagit au fait que, enfin, le livre est apparu en version française?
Bah écoutez, plutôt bien. Il est assez content. On a passé aussi pas mal de temps ensemble à lire. Il ne parle pas le français, mais du coup, je lui ai posé pas mal de questions sur son texte. Comment il voit la traduction française? C'est vrai que jusque-là, il avait l'impression d'être boudé, en fait, je crois, par un pays ou une culture, en tout cas, qu'il avait beaucoup lu et dont il s'était beaucoup inspiré. Et je crois qu'il en avait il en avait été un peu blessé, que ça puisse pas passer, on va dire, le Rhin. Maintenant, je crois quand même qu'il a atteint, ça fait 40 ans, il est sur autre chose, il est en train de compléter ses derniers livres. Je crois que quelque part, il a réussi à lâcher prise un peu sur son Männer Fantasy. Mais c'est intéressant. Moi, je suis vraiment curieux de voir comment il va être lu, comment il va être interprété, s'il est d'ailleurs lu, ce que j'espère, et comment il va être repris, etc. Et comment il va faire aussi que les hommes français s'interrogent sur leur propre masculinité, ce qui me semble être quand même pas mal engagé, mais on va dire qu'on est quand même dans une culture assez patriarcale. Et je crois qu'il y a cet effort encore à faire. Voilà. Et je crois que Teveleit nous y aide, en tout cas, avec Männer Fantasy.
Merci beaucoup. Merci, Christophe Lucchez. Vous êtes un traducteur passionné et il faut, je dirais, aussi à la fin de cette manifestation, aussi insister, encore une fois, hein, sur à la fois votre engagement hein, de traducteur, hein, qui est véritablement une prouesse et une performance, et aussi tous ceux qui ont rendu, je dirais, cette traduction possible, hein, évidemment l'archéditeur, hein, mais aussi hein, les institutions, notamment l'Institut Goethe, qui vous ont soutenu financièrement hein, pour réaliser ce projet et d'autres encore. Et donc souligner encore une fois, hein, l'invitation hein, d'un traducteur est un moment important pour ça, souligner à quel point hein, la traduction hein, reste, je dirais, un outil hein, de médiation essentiel pour comprendre des idées hein, qui ne sont pas nécessairement formulées en français et qui peuvent hein, nous inciter à réfléchir sur notre histoire, hein, mais aussi sur notre actualité. Peut-être sur, si on replonge un peu dans le contexte des années 70, Teveleit hein, le dit aussi dans la préface hein, à l'édition française, hein, il remercie sa femme, Monika Teveleit, qui est une psychiatre spécialisée hein, dans l'enfance, hein, dans le traitement hein, des enfants. Et donc il dit hein, très clairement qu'il a beaucoup hein, profité, il a beaucoup tiré hein, du travail de sa femme hein, dans ce cadre-là. Donc peut-être une question hein, sur l'éducation, hein, la place hein, de l'éducation dans Fantasmagorie. Évidemment, dans les années 60-70, hein, ça devient vraiment un outil indispensable. Hein. Il faut déconstruire, finalement, hein, cette vieille éducation hein, fascisante hein, qui a fait, à travers les jeunesses hitlériennes, etc., qui a forgé hein, toute cette génération des parents. Donc, comment est-ce qu'il envisage l'éducation? Et est-ce qu'on peut, finalement, rééduquer les corps pour sortir du fascisme?
Oui, je pense, oui. Quoi, il donne des pistes, en fait, dans ce sens-là. Surtout si le corps a une place, d'autant plus que le corps a une place prépondérante dans son analyse. Je pense qu'en fait, que aussi, ce qui l'intéresse chez les corps francs, et ça, il analyse plutôt dans la quatrième partie, au quatrième chapitre, c'est leur éducation. Et finalement, en la décrivant, notamment par le drill, qui est le dressage qu'on pratiquait dans les corps francs, un peu une analyse un peu foucauldienne sur l'institut, etc., et ce qu'il a fait sur les corps, etc. Il donne un peu un contre-modèle de ce que pourrait être une autre éducation. Et il a suggère justement si quelque part l'éducation dans les chez les cadets, dans les corps de cadets, était rigide, elle se faisait par la violence, c'est-à-dire il explique comment la carapace est apposée sur le corps, elle se fait par les coups, elle se fait en fait par insensibilisation de l'épiderme par au contraire le plaisir que l'on doit tirer finalement de cette même de la douleur, etc. Donc il montre qu'il faut au contraire ouvrir, essayer d'ouvrir tout ça. Il faut l'ouvrir, il faut essayer de dissoudre la carapace et que là où, par exemple, quand, quoi, entre autres, il peut y avoir des analystes qui ont dit que chez certaines personnes, comme un schizophrénique ou psychopathe, ils avaient des problèmes en fait à construire leur moi. Chez les hommes soldats, c'est l'inverse. Ils ont un moi trop fort, ils ont un moi hypertrophié. Cette carapace en fait qui leur sert de moi. Donc il s'agirait au contraire peut-être d'adoucir, d'assouplir, d'essayer de dissoudre un peu ce moi et de réhabituer quelque part ce corps insensibilisé à la sensation, mais au désir qu'il réprime. Et c'est vrai que ça, malheureusement, ça ne se fait pas par un effet mécanique de paupérisation ou de lutte des classes. Malheureusement, quoi, pas que, en tout cas. Il faut. Voilà. Bon, enfin, ça ouvre sur notre débat sur le rapport aussi avec le communisme et l'échec, par exemple, du communisme à séduire autant que le fascisme. C'est que le fascisme a justement su parler au désir, à ses désirs un peu quoi, tordus, pervertis, là où le communisme n'a pas su, en fait. Enfin, bref, ça, c'est un autre sujet.
Une question sur les illustrations. Hein. On l'a dit à plusieurs reprises, Klaus Sewelaet a presque toutes les deux pages hein, a intégré, hein, que ce soit des photos, hein, des planches hein, de bandes dessinées, des affiches hein, de cinéma, des publicités, etc. Alors là aussi, je dirais à l'éditeur Christophe Lugès que je m'adresse. Comment s'est fait le choix? Qu'est-ce que vous avez gardé? Est-ce que c'est en dialogue avec Klaus Tevelight? Comment est-ce que cet aspect, je dirais, de la réalisation de l'ouvrage a pu se produire?
Je peux dire qu'en fait, on a réussi à économiser pas mal de place, notamment en enlevant certaines images, et que du coup, on a procédé par un choix, conjointement avec aussi la lectorine qui me suivait, avec qui justement on travaillait de concert pour l'édition du livre. Alors, c'est toujours délicat. En fait, normalement, on avait un accord avec Tevelight, mais il me donnait carte blanche, mais moi, je lui faisais quand même des retours sur ce que j'enlevais, sur les illustrations, etc. Et en fait, il a été surpris d'apprendre qu'on avait enlevé des illustrations. Ce que j'ai appris, c'est que jusqu'à présent, il avait refusé catégoriquement qu'on le fasse. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, finalement, ces livres sont difficiles aussi à traduire. C'est qu'il ne transige pas, en fait, sur la place des images, hein, qui est pas inférieure en fait en valeur à celle du texte. Forcément, comme un traducteur, j'ai ce mauvais penchant du coup à m'occuper plus du texte que des images, donc peut-être voilà, de par ma fonction à y accorder moins d'importance. Mais dans la préface, il dit très bien que justement, il accorde à une illustration autant de valeur et de potentiel aussi de pouvoir commenter une situation, etc., que le texte en tant que tel. Quand on voit d'ailleurs l'usage qu'il fait du texte comme un montage, on comprend tout à fait. Donc voilà. Donc c'est vrai que je crois qu'en tant que traducteur et que lecteur, voilà, ou premier lecteur en tout cas de la version française, je me suis laissé, on va dire, suggérer. J'ai laissé travailler sur moi toutes ces images-là, ce qui faisait qu'à la fin, je savais à peu près que certains me parlaient plus que d'autres. Donc sur cette base-là, en me disant que j'étais finalement pas si infidèle que ça à l'esprit du livre, on a pu se défaire de certaines images et en garder d'autres.
Merci beaucoup, merci
Merci à
Christophe
vous.
Lucchese.